Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, avec Marc Madio, Jérôme Pinault et Fred Weiss ce matin. Une bonne tablette sportive. Voilà, on embrasse Christophe Cessieux hein, qui n'est pas autour de la table ce matin.
Et on lui dit de prendre son temps pour revenir, c'est ça?
C'est un peu plus cadré quand il est pas là.
C'est cadré, c'est vrai, c'est intéressant. On s'engueule pas, tout ça, il y a des, ouais, des sujets, on se laisse parler. Ouais,
c'est magnifique. Ça. C'est il ça. Doit être au troisième kilomètre, ouais, de sa marche à Verneuil, laissez-le, ouais, tranquille. S'il nous écoute, il va, ouais, le cœur s'emballer. Enfin,
mais attention, ouais, à son âge. Tu sais qu'on l'aime.
Mais
on l'aime.
Mais Christophe, eh oui. Christophe, moi je l'adore parce que c'est un passionné. C'est un passionné. C'est-à-dire que, par exemple, quand Pascal Duprat lui dit: mais dans les Alpes du Sud, vous ne savez pas ce qui est. Quoi? Quoi? Tu es où, les Savoyards et tout? Mais attends, mais c'est pas grave.
Il va bien. Il y a un autre problème, hein, le GC Nice aussi qui peut être.
Oui, ouais, il est très chauvin.
Hein. C'est vrai que peut-être hier, on a touché beaucoup trop de cordes, ouais, sensibles. Alors que je rappelle qu'en tout début.
Qu'il nous manque, ouais, parce que ça fait 3 minutes qu'on en parle.
Bien sûr.
Passe,
évidemment parce qu'il nous manque.
Mais quelle légende quand même. Le gars, en début d'émission, nous dit: aujourd'hui, je ne serai pas belliqueux. 9h15, il était déjà en train de marcher sans tout le monde, c'est pas possible. Vous pouvez retrouver la première heure très cadrée, du coup, en podcast sur toutes les plateformes des grandes gueules du sport. Aujourd'hui, dans un instant, on va parler de Tadej Pogacar, qui pense qu'il est possible de gagner les 3 grands tours sur une seule saison. C'est inédit, hein, ça n'a jamais été fait. Hein. Est-ce que vous y croyez, vous? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Marion, grosse joueuse, hein, au jeu du sport. Hein.
Ah oui.
Attention. Hein.
Ouais. Bon, elle perd souvent, mais grosse joueuse.
Et d'ailleurs, je crois que dans les statistiques, c'est Marion qui a les meilleurs résultats.
Elle triche, bah oui, ou pas? Jamais perdu.
Elle triche? Est-ce que Marion triche?
Triche?
Non, moi je dirais non. Je dirais non, je pense qu'elle a certaines valeurs.
Elle gagne ou elle perd? Elle gagne souvent?
Elle gagne, ouais, c'est la vie.
Tout le temps.
J'en suis à
deux. Mais arrête, t'as le droit d'avoir des connaissances en tricher.
Oui, mais pas toi. Oui, Marion. En général, oui, mais pas toi.
Voilà, vous l'avez bien compris.
Pourquoi pas moi?
Vous l'avez bien compris, on est juste avant les fêtes.
Vous, les gens du tennis, on sait que vous jouez souvent avec les règles.
Après, Alizé Cornet est dernière pour l'instant des jeux de sport.
Elle joue avec les règles aussi, mais elle
n'a
pas compris.
Et Bennett n'a jamais gagné un tournoi de Fiavi. Pourquoi je rappelle ça?
Ah ouais, au bout de combien de finales il a fait
10.
Ah oui.
10.
On l'embrasse, Bennett qui a fêté son anniversaire cette semaine. Bon anniversaire, Bennett.
Au flunch avec des amis chez Flunch.
Je pense qu'on lui a offert un titre. Non, quand même pas. Arrêtez.
T'es méchant.
Je l'adore, Bennett, j'adore. Remportez, alors, les jeux du sport. Remportez votre aspirateur Cyclomax R15 station signée EasyClean avec une aspiration
cyclonique.
Exactement. Donc, pour remporter votre aspirateur EasyClean avec son aspiration
cyclonique.
Appelez le 3216, touche 4, envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Tu devrais être speaker avec moi, Fred.
On a testé sur les morceaux de verre dans ma bagnole, ça marche super.
Oui, c'est vrai, t'as pas vécu une belle matinée. D'abord, les GG, le meilleur joueur de tennis de la planète, le sera-t-il encore sans son mentor?
RMC, le ring des GG.
Pour Ferrero, gourmandise égale qualité.
Allez, 5-4, allez. Avantage Alcaraz, c'est la numéro 3.
Qui est
ça va être gagnant, c'est fait. Bravo, bravo Carlitos, rien à dire. C'est le patron devant Bruce Springsteen, c'est le boss.
Ferrero, la qualité avant tout.
Il récupère la place de numéro 1.
Incroyable.
Passe à 6-4. Et Sinner est à terre. Sinner qui voit sa série de 27 victoires d'affilée sur dur s'interrompt. Il a sourire, Sinner, il ne pouvait rien faire aujourd'hui.
C'est pourquoi chaque été, nous arrêtons de vendre ces produits afin d'éviter que la chaleur n'altère leur qualité.
C'est un service qui est gagnant, c'est un service gagnant. Yannick Sinner remporte son premier Wimbledon. Chapeau Sinner. Il a vaincu les démons après ce qui s'est passé à Roland et il détrône Carlos Alcaraz.
Ferrero, créateur de magie.
Eh oui, Ferrero, Juan Carlos Ferrero est un créateur de magie pour faire
du génie quand même.
On embrasse bien évidemment toute l'équipe qui prépare cette émission, notamment Kylian Verov à la production. C'est l'information qui a secoué la planète tennis en milieu de semaine. Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz et son entraîneur Juan Carlos Ferrero, c'est fini. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur collaboration sur les réseaux sociaux. En 7 ans, ils ont remporté ensemble 24 titres, dont 6 en Grand Chelem et la place donc de numéro 1 mondial actuel. Le Murcien de 22 ans travaillait avec Ferrero depuis ses 15 ans. Les GG, je vous pose la question. Donc ce matin, est-ce que vous êtes inquiet pour Carlos Alcaraz sans son mentor? J'ai 3 oui, Marion, Jérôme, Fred et Marc qui me dit plutôt non, je suis pas très inquiet pour Alcaraz. T'es d'accord, hein?
Oui.
Tu changes pas, hein?
Je t'ai dit non.
75% des auditeurs sont d'accord avec toi, Marc, et à ne pas être inquiet pour Alcaraz. Vous votez sur le compte XDGG du sport. On vous attend évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424. L'une des voix du tennis sur RMC, Anthony Reich, nous rejoint. Salut Anto.
Bonjour à tous.
Bonjour patron.
Bonjour. Ouais.
Ouais. Anthony, qui est également, Anthony qui est également notre chef du week-end, sachez-le, sur RMC, et qui, quand Christophe Cessieux fait trop de bruit, nous envoie des messages. Dites-lui de parler moins fort. Anthony, alors qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qui se dit des raisons de la séparation inattendue entre Alcaraz et Ferrero?
Eh bien, cette rupture serait due notamment à la renégociation du contrat de l'entraîneur du numéro 1 mondial, Juan Carlos Ferrero. Selon le quotidien espagnol Marca, eh bien, cet accord proposé à Ferrero comprenait une réduction de salaire significative. Pour être plus précis, le salaire de Ferrero était calculé jusqu'à présent sur un pourcentage du prize money gagné sur la saison par Carlos Alcaraz.
C'est bien quand tu gagnes beaucoup.
Là, il y a eu 19 millions de dollars de prize money, donc évidemment, une certaine somme assez conséquente pour Ferrero était calculée. Ce pourcentage était donc revu à la baisse dans cette proposition de contrat à l'ancien numéro 1 mondial. Le document comportait aussi plusieurs clauses que Ferrero a jugées inacceptables, mais ce seraient d'autres aspects sans lien direct avec le tennis qui auraient expliqué ce refus. Par exemple, Ferrero aurait reçu ce nouveau contrat samedi matin dernier avec un délai de 48 heures aux allures d'ultimatum pour donner sa réponse définitive. Ensemble, Ferrero et Alcaraz ont remporté 24 titres, dont 6 tournois du Grand Chelem.
Merci Anthony. Voilà, on en sait un peu plus sur ce qui se dit, en tout cas, ou ce que l'on sait autour de cette séparation qui a beaucoup fait parler. Marion, alors toi, t'es inquiète pour Alcaraz après cette information qui a bousculé la planète tennis cette semaine. Pourquoi ?
Alors, je suis à la fois inquiète et j'espère être rassurée dans pas trop longtemps parce que justement, il est en train de chercher quelqu'un qui pourrait remplacer Juan Carlos Ferrero et je vais développer un peu plus tard. Tout d'abord, le timing interroge et interpelle énormément. Il n'y a personne qui décide de changer d'entraîneur un 17 décembre comme ils l'ont fait. Donc ça veut dire que les deux parties étaient certaines de recommencer la saison 2026 ensemble. Si jamais vous commencez à penser qu'un coach ne va pas vous convenir, déjà après l'US Open, vous commencez à réfléchir à des noms potentiels et puis vous signifiez à votre entraîneur à la fin de la saison, donc c'est-à-dire pour Carlos après Turin, puisqu'il n'a pas été capable de, il n'a pas pu, pardon, jouer avec l'Espagne puisqu'il s'est blessé sur la finale de Turin contre Yannick Sinner. Vous lui signez la fin du contrat et vous commencez votre pré-saison, donc votre période d'entraînement du mois de décembre pour préparer l'Open d'Australie avec votre nouvel entraîneur. Donc là, aucun de ces steps n'ont été respectés. Ça veut dire que les deux pensaient qu'ils allaient bien évidemment continuer ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, ça s'est interrompu. Alors, si je peux me permettre de rajouter quelques éléments sur ce qu'a décrit Anthony, qui est effectivement réel, les raisons profondes du fait que Juan Carlos et Carlos ne sont pas arrivés à trouver d'accord ne sont pas uniquement que financières. Il y a en fait un problème sur le calendrier de tournoi choisi par Carlos Alcaraz et par son entourage. Et surtout, beaucoup de matchs exhibition qui ont été rajoutés, là où Juan Carlos Ferrero n'est pas d'accord avec ça. Et je parle de ça parce que ça me paraît important. C'est qu'en fait, après l'US Open, Carlos Alcaraz a décidé de ne pas aller en Asie, de ne pas jouer à tournoi asiatique. Il a ensuite joué une exhibition à Riyad. Il est venu jouer le Rolex Paris Master où il n'était pas du tout en forme, il n'était pas du tout prêt à jouer. Et il va effectivement au Masters de Turin. Il se blesse en finale, il ne peut pas défendre les couleurs de l'Espagne pour la finale de Coupe Davis. Et en fait, Juan Carlos Ferrero lui dit qu'effectivement, il a ses qualités musculaires qui sont exceptionnelles. Il est puissant, il est élastique, il est rapide, il est endurant, il est tout ce que vous voulez. Mais il a tendance à plus se blesser que d'autres joueurs. Et que si donc il ne fait pas attention à planifier ses plages de récupération réelles et qu'il rajoute exhibition après exhibition dans la période où il doit s'entraîner. Donc là, par exemple, en décembre, il est parti faire deux exhibitions aux États-Unis. Il en a une troisième qui est programmée avec Yannick Sinner à Séoul le 10 janvier. Et que ça, Juan Carlos Ferrero, par son expérience, lui qui a été numéro un mondial et qui a été vainqueur en tournoi du Grand Chelem, il n'est pas d'accord avec ça. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à trouver un accord en interne. Là où je me dis plutôt rassurée, c'est que effectivement, il sait très bien que l'entraîneur qu'il a pris actuellement va être que intérimaire, il va pas être son entraîneur principal, qu'il y a le nom de Carlos Moya qui circule, qui a bien sûr.
Ah oui, qui a travaillé avec Nadal en plus.
Voilà, au côté Nadal, qu'il a fait gagner le tournoi du Grand Chelem. Il y a David Ferrer qui le connaît très bien, son capitaine de Coupe Davis. Il y a même Rafael Nadal et Roger Federer qui sont des noms qui circulent.
Oh là,
donc,
ce sera
incroyable, de toute façon, Carlos est obligé d'avoir quelqu'un qui l'encadre. C'est quelqu'un qui a un génie pur, mais s'il n'est pas cadré, il faut bien quand même comprendre que Juan Carlos Ferrero lui parle entre chaque point. entre chaque point. Ils lui disent ce qu'il doit faire tactiquement, là où il doit jouer, comment il doit s'adapter, s'il doit reculer au retour, avancer au retour, s'il doit servir plus à l'extérieur, plus en kick, plus à plat. Il le coach entre chaque point. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz ne peut pas avoir le même rendement, surtout contre Yannick Sinner. On voit déjà que c'est très limite. À un point près, il perdait la finale de Roland-Garros contre lui. Continuer à être seul, entre guillemets, sur le terrain par uniquement ses qualités, ce n'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il aura l'intelligence de s'encadrer plus, mais il en aura absolument besoin. Sinon, il ne sera pas concurrentiel par rapport à les qualités qu'en sont en train de développer Yannick Sinner, qui s'entraîne tous les jours à Dubaï et que je peux vous dire passe un énorme volume d'entraînement à justement continuer à faire améliorer
son jeu
et progresser.
Marion, du coup, l'inquiétude, on peut l'avoir. Alors, je ne sais pas, Jérôme et Fred, puisque vous êtes inquiets dans ce que décrit Marion sur le fait qu'ils ne sont pas tombés d'accord peut-être sur les programmes, sur le fait que peut-être qu'Alcaraz se disperse un peu justement en allant faire des exhibitions. Est-ce que ce n'est pas de nature à inquiéter justement quand on voit que la séparation elle est faite sur attention, c'est ça, tu vas sur des territoires qui ne sont pas bons.
Moi ce qui m'inquiète déjà c'est l'ultimatum, c'est le fait de dire tu l'envoies comme ça, il faut qu'il réponde en 48 heures. C'est vraiment très particulier comme façon de faire avec quelqu'un avec qui tu travailles depuis 7 ans. Moi je trouve que c'est un peu scandaleux.
Mais avec qui tu as quand même une relation aussi tu es le joueur et tu payes ton entraîneur.
Non, évidemment.
Une relation,
c'est quasiment un père de substitution. Quand tu prends quelqu'un à 15 ans, que tu l'amènes à ce niveau-là, en termes de stabilité, surtout quand on a un joueur comme Alcaraz, qui est quand même un peu fantasque, Marion l'a répété, je me dis que ça peut être risqué, parce que oui, tu peux trouver quelqu'un d'autre qui peut te recadrer, mais il y a peut-être un temps de latence, et il y a peut-être une demande de sa part, d'Alcaraz, d'avoir un petit peu moins quelqu'un qui te met la pression, moins un père de substitution, et te laisser un petit peu plus faire la fête. On sait qu'il a un peu cette tendance, se relâcher un petit peu, faire des exhibitions.
Allons sur vos carrières, peut-être aussi, les gars, pour avoir de la résonance. Toi, Fred, il y a des entraîneurs qui, dans ta carrière, justement, ont été importants, et quand tu changes, c'est pas pareil.
Mais évidemment, il y a des entraîneurs qui sont importants, mais dans le basket, t'as jamais un entraîneur qui te suit de 15 ans à 22 ans, en fait. Ouais. Et donc, encore une fois, je me répète, quand on est un athlète de haut niveau, tu pars très tôt de chez toi, tu cherches cette figure paternelle qui t'accompagne, qui t'aide, qui te guide. Et c'est vrai que se séparer à ce moment-là, et comme Marion l'a très bien expliqué, en fin d'année, sur des conditions comme celle-là, ben moi, je suis désolé, ça m'inquiète un petit peu.
Tiens, en parlant de figure paternelle, quand on arrive dans une équipe, Marc Madiot est parfois cette figure-là pour les jeunes qui arrivaient à la FDJ, que tu vois grandir avec toi, et pour qui tu es peut-être parfois aussi un soutien émotionnel et dans la carrière. C'est pas neutre quand même ce qu'on construit avec un jeune coureur.
Ça n'est pas neutre, sauf
que... Mais toi, t'es pas inquiet pour Alcaraz.
Je suis pas inquiet parce qu'on n'est pas dans le même schéma que dans d'autres sports. Là, c'est l'entraîné qui paye l'entraîneur. Dans d'autres sports, entre guillemets, c'est l'entraîneur ou le club qui paye l'entraîné. Donc, on n'est pas dans la même relation. Et moi, je suis pas trop inquiet. Alors, j'ai pas la connaissance que peut avoir Marion de la situation. Moi, je me dis juste que peut-être que pour Alcaraz, le fait de changer d'entraîneur va lui donner un nouveau souffle, va lui ouvrir des portes qu'il avait peut-être pas ouvertes avec son entraîneur précédent, et ça peut le stimuler, entre guillemets. Peut-être que le nouvel entraîneur va l'emmener sur des terrains où n'allait pas le précédent.
Mais c'est vrai, là où t'as raison, c'est qu'on sent que c'est un joueur, et je pense que Marion sera d'accord là-dessus, qui a besoin d'être stimulé. Donc,
Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et encore une fois, l'élément pour moi déterminant, c'est que le rapport de force n'est pas le même que dans d'autres sports traditionnels où, entre guillemets, l'entraîneur représente la structure qui paye l'entraîné. Là, on est dans un schéma totalement inversé, puisque c'est l'entraîné qui paye l'entraîneur. Donc, on est dans un rapport de force totalement différent. Donc, moi, je demande à voir, mais je suis pas trop inquiet. Ça peut être stimulant. Ça peut aussi se terminer dans le mur. Mmh. Et puis, dans six mois, il reviendra avec son ancien entraîneur.
Dépendre des raisons de son choix et de ce qu'il veut en faire de son entraîneur.
Quelles sont les vraies raisons
Ce qui me choque dans tout ça, c'est que cette année de collaboration, de travail, Marion le dit, il l'a amené des juniors au numéro 1 mondial. Alors pourquoi attendre l'hiver pour renégocier?
Oui, c'est ça, c'est très surprenant.
Il y a un pompon dans le jeu de boules, il y a quelque chose qui va pas.
Il y a quoi, pardon?
Il
y a un pompon dans le jeu de boules.
Normalement, c'est pas ce mot-là.
Mais il me semblait important de s'arrêter sur cette expression quand même. Mais vas-y, continue.
En tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. C'est-à-dire que l'échange entre les deux, hors entraîneur entraîné, est rompu. Moi, j'ai été entraîneur par mon frère. C'est lui qui, à chaque fois que j'ai fait des belles saisons, était mon entraîneur. J'attendais pas le mois d'octobre pour discuter des conditions du contrat. Il n'y en avait pas déjà, mais il y avait. Enfin, tu discutes de ça tout au long de la saison. Donc, à savoir si quand tu changes d'entraîneur, tu as envie de faire ce que tu veux et qu'il te dise oui à tout. Et là, ça peut être dangereux pour Alcaraz. Soit il va effectivement aller chercher un nouveau souple. Mais moi, je suis plutôt inquiet dans le sens où cette discussion n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas de transmission entre Ferrero et le prochain. Et surtout, connaissant les petits défauts de Carlos Alcaraz, ça peut être dangereux pour lui. Face à lui, il y a un garçon qui, lui, est dans la rigueur et qui ne change pas de staff, à part de temps en temps le kiné, parce qu'il peut avoir des soucis. Sinon, l'entraîneur, c'est toujours le même.
Et il le reprend quand même, après.
Ouais, il le reprend quand même, ça tourne.
Êtes-vous inquiet pour Carlos Alcaraz?
Moi, je suis plutôt inquiet, là, dans le timing et dans, ce qui s'est, et dans la façon dont ça s'est passé.
Je rappelle juste, Mario, avant de te donner la parole, ce qu'avait dit Juan Carlos Ferrero dans le documentaire d'Alcaraz sur Netflix. Il avait dit son approche du travail et les sacrifices à faire est différente de la façon dont on travaille, tellement différente qu'elle me fait parfois douter. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on devient meilleur joueur de l'histoire. Donc, dans le documentaire sur Alcaraz, il avait déjà envoyé une petite pique Ferrero pour dire attention quand même aux limites de sa façon de vivre une carrière de sportif de haut niveau, Marion.
Non, je suis totalement d'accord. Et pour revenir sur ce qu'a dit Marc, ce qui était très intéressant d'ailleurs, Tony Nadal s'est totalement exprimé là-dessus. Et il dit exactement
l'oncle
ce que tu dis.
L'oncle de Rafa qui était son entraîneur.
Voilà. Les relations dans le monde du tennis sont difficiles car celui qui paie, c'est-à-dire le joueur, paie généralement pour entendre ce qu'il veut entendre. Pour moi, c'était facile de dire à Rafa les choses qu'il n'aimait pas entendre parce que c'est différent, c'était mon neveu, il ne me payait pas. Et en fait, là, le problème, et j'en reviens totalement à ce qui a été dit dans le documentaire par Juan Carlos et ce qui a été dit par Jérôme aussi, c'est que je pense que beaucoup de gens autour de Carlos Alcaraz, pour pas perdre leur poste, lui disent ce qu'ils veulent entendre. Et que Juan Carlos Ferrero avait effectivement ce recul par sa position, par le fait que lui-même était joueur numéro un mondial et qu'il attendait pas forcément qu'après Carlos Alcaraz pour vivre, en lui disant les choses qu'il fallait lui dire. Mais il a aussi laissé une porte ouverte, puisqu'il a déclaré aujourd'hui un chapitre très important de ma vie prend fin. J'aurais aimé pouvoir continuer. Je suis convaincue que les bonnes personnes trouvent toujours moyen de se refroidir.
C'est ça qui a mis la puce à l'oreille de tout le monde.
Ce qui va se passer, c'est que les six premiers mois, ça va tâtonner. Il va y avoir des noms qui vont circuler, etc. Qui va reprendre le poste, qui va pas le prendre. Bon, bien sûr, entraîner un génie comme Alcaraz, il va pas essuyer beaucoup de refus. Si la personne qui prend, ça ne fonctionne pas pour X, Y, Z raison, et que c'est Sinner qui commence à prendre les deux premiers grands chelems de la saison, c'est-à-dire l'Australie où il est archi-favori, éventuellement Roland Garros parce qu'il était qu'à un point, il va rappeler Juan Carlos, mais en courant.
Ce que disait
c'est
Marc.
L'évidence. Donc, donc, en fait, si tu veux, moi, je m'inquiète, mais de manière plutôt, on va dire, pondérée, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des qualités au départ qui sont exceptionnel, mais il a besoin d'avoir un cadrage parce que
après,
c'est quelqu'un
nous,
qui peut
Marion...
arrêter le tennis comme Borg à 25 ans. Ouais, ben voilà. Et Marion, bien sûr qu'on a un génie, qu'on n'a pas envie de ça. On a envie qu'il continue pendant très très longtemps.
Nous, on a le logiciel processeur Federer, Djokovic, Nadal. Mais est-ce que Alcaraz a vraiment envie de rentrer dans ces carcans-là? Est-ce qu'il a envie de faire carrière?
Et en fait, il a pas envie. Enfin, je pense que quand on comprend bien dans son documentaire, notamment, qu'il ne veut pas être comparé, en tout cas dans la vie monacale, peut-être à Federer,
lui,
Nadal
va faire
et Djokovic.
Le choix d'une
Il veut pas être Sinner, c'est un immense compétiteur et qu'ils vont se tirer la bourre pendant des années parce que quand Novak, qui peut être le seul, on va dire maintenant encore, à pouvoir éventuellement les challenger, mais quand Novak va arrêter d'ici peu, ils vont être vraiment les deux seuls, et que s'il voit Yannick Sinner s'envoler, il va se dire attends, moi aussi j'ai envie d'en prendre. Donc ils nous ont donné cette année trois finales de Grand Chelem quand même, les uns contre les autres. Je vais vous donner juste une micro stat qui va vous intéresser. Ils ont gagné exactement le même nombre de points à 50% chacun cumulé sur les trois finales de Grand Chelem. Tu le crois ça?
Il y a une grosse stat. Une grosse stat, parce qu'une micro stat, ça aurait été, il a fait une faute dans un match, tu vois. Là, ça, c'est quand même.
Il y a 0 point d'écart.
Après, Marion, sur ta dernière, ce que tu viens de dire, moi, je suis d'accord avec toi, sauf que je pense qu'il a envie de le battre, mais il y a une différence entre envie de le battre et vouloir être lui. Moi, je pense qu'Alcaraz, il a pas du tout envie d'être Sinner. Hein. C'est pas du tout son délire. Ouais,
mais
c'est pas son
modèle. Je pense que le seul qui avait la capacité.
Pour le battre, il faut faire les efforts nécessaires.
Le seul qui avait la capacité à lui imposer des choses, à mon avis, c'est Ferrero, justement. Comme il l'a connu jeune. C'est pour ça qu'il le change. Parce que justement, maintenant, il a envie. En fait, dans le rapport de force que vous expliquiez, où l'entraîné était le patron de l'entraîneur, je pense que c'est un peu trop équilibré à son goût dans cette relation. Où justement, les deux avaient à peu près la même valeur, parce qu'il y en avait un qui était très bon joueur de tennis avant, mais surtout il y en avait un qu'il avait pris à 15 ans.
C'est des discussions. Et donc, il avait amené où il fallait, en fait. Le choix du successeur de Ferrero va être déterminant et sera très très instructif. Exactement. Sur la situation.
Bien sûr. Mais c'est, là, on pourra, effectivement.
C'est une vraie problématique. Marc parle de sa structure et de dire que aujourd'hui l'entraîneur et l'athlète est payé par l'entraîneur parce que l'entraîneur est salarié d'une structure. C'est pas le cas dans toutes les structures. Pour avoir longtemps discuté et échangé sur les possibles changements dans une structure française au nord de la France, on citera pas le nom, l'équipe Cofidis, qui a changé de manager et qui pense avoir tout changé, les leaders payent leurs entraîneurs. Les leaders de cette équipe étaient encore avec des entraîneurs privés. Bon, ça peut pas marcher, parce que le jour où t'as plus envie d'y aller, tu dis au mec, c'est moi qui te paye, donc aujourd'hui je vais pas aller m'entraîner.
Êtes-vous inquiet pour Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial de tennis, qui donc s'est séparé de son entraîneur de toujours, Juan Carlos Ferrero. Tiens, on a Lionel, un habitué des grandes gueules du sport, qui nous appelle au 32-16. Salut Lionel.
Salut tout le monde.
Lionel, t'es inquiet toi pour Carlitos, le fait qu'il ne soit plus avec sa figure paternelle, son maestro, effectivement.
Alors, prime abord, inquiet, on est obligé d'être inquiet parce qu'ils ont fait une longue aventure, parce que ben, ils ont tout gagné ensemble, ils ont je pense qu'il est plus proche pendant le tennis. Il s'est même plaint les deux trois fois et je pense que c'est un des problèmes contractuels quand il ne suivait pas dans certains tournois. Maintenant, pourquoi pas? Parce qu'ils ont un rapport père-fils quelquefois. Peut-être que le message passe moins. Et que c'est des discussions. Parce que je pense que son gros problème à Alcaraz, politiquement, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la maturité, il y a encore du taf. Quand on le compare à Sinner, on a l'impression qu'il y en a un, c'est un homme d'affaires dans son travail, l'autre, c'est un gamin qui attend la récré à des moments. Mais par contre, techniquement, c'est le meilleur au monde. Alors peut-être qu'un électrochoc, peut-être qu'une rencontre, peut-être un autre discours, à lui de ne pas mettre, comme dans les clubs de foot, l'entraîneur remplaçant, parce que ça ne servira à rien. Par contre, s'il a un grand nom, s'il y a un gars qui lui en impose un peu, ben peut-être que ça peut en être quelque chose.
Ouais.
Au prime abord, j'ai peur des conséquences sur les premiers mois.
Même si Ferrero
un électrochoc, il gagne deux grands chelems comme cette année.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on va le voir aussi.
Il fait quand même une saison monstrueuse, il est numéro un mondial de grands chelems.
Le souci, c'est que il a pas qu'un adversaire. Sinner, quand il rentre sur les terrains, à part tomber sur un Dimitrov en chaleur, il n'y a qu'un adversaire, il faut battre Alcaraz. Lui, il peut passer à côté d'un match contre un mec comme Zverev, qui prend des fessées contre Sinner. Donc lui, il fait une saison extraordinaire, mais il n'est pas à l'abri de sortir d'un match. Je veux dire, son premier tour contre Nori à Bercy, il est pathétique. Sinner,
oui, bien sûr, mais il y a un premier tour contre Goffin et Miami, il y en a d'autres. Hein,
oui, et puis même la finale.
Il y a quand même une régularité sur l'année qui est quand même monumentale.
Et puis même la finale de tu le disais tout à l'heure, Marion, la finale du Masters à Turin, voilà, il est dominé par Sinner. Mais il est là quand même, et parce que là, il y a le jeu des comparaisons avec Sinner qui fait qu'on est, on parlait de Mbappé tout à l'heure, très exigeant avec Carlos Alcaraz. Merci Lionel de nous avoir appelé au 32-16 pour parler, d'Alcaraz qu'on attend évidemment sur le premier grand chelem de la saison à l'Open d'Australie qui débutera le 18 janvier. C'est le seul grand chelem qui n'a pas remporté dans sa carrière. Donc,
c'est celui qu'il aime le moins. Non,
mais t'imagines, il y va sans coach et il le gagne. On dira, bon, en fait, il a besoin de personne, Alcaraz. Ah, vas-y, prends les balles.
Il a perdu sur Novak en début d'année.
Ouais, effectivement. Merci Anthony Reich d'avoir été avec nous. Merci chef. Il va rester à l'écoute, évidemment, de l'émission, comme vous tous, au 32-16. On compte sur vous pour participer. Dans quelques instants, on va parler vélo. Tadej Pogacar nous dit que c'est possible de gagner les trois grands tours sur une seule saison. Ah bon? Ça n'a jamais été fait.
Alors,
on va voir, on va en parler dans quelques...
Justement.
C'est possible, tu penses?
On va demander aux spécialistes.
Oui ou non? Tu dis oui, Marc?
Ouais.
Oh, le teasing incroyable.
Moi, je suis Marc, alors. T'es Jérôme, tu dis quoi, toi?
Non. Vos arguments après la pub, tout de suite.
Il veut être contre Jérôme, nous, Jérôme.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport dans un instant. Les GG remontent le temps. Il y a 3 ans, la défaite des Bleus. Aïe, aïe, aïe. En finale de la Coupe du Monde.
Pourquoi
les Argents.
Tu nous rappelles ça?
Mais parce que, ben voilà, c'est. Hier, on avait la fédé de la loose avec nous. C'était. C'est important parfois. On sait que c'est très français. Hein, on a rappelé nos grands traumatismes. On aime bien souffrir. Les Argentins sont-ils devenus nos meilleurs ennemis en foot? évidemment. Tiens, il y a du ski alpin en ce moment, hein, je vous préviens, il y a le slalom géant d'Alta Badia en Italie, on est à moins de deux mois des JO d'hiver que vous suivrez sur RMC. C'est parti depuis quelques minutes, pour l'instant c'est l'Autrichien Marco Schwartz qui est aux commandes. Les Français, Léo Anguenaud, le premier pour l'instant, est 8e à 1:40, Thibaut Favreau 9e, 1:50, on attend le passage d'Alexis Pinturo dans un instant, et puis on suivra le Super G féminin, évidemment, à 11h, Marion Lindsevold notamment sur la piste, sur Roman Miradoli qui a fait podium le week-end dernier. Oui, bien sûr. Allez, Roman, elle a fait mieux qu'une Sevone dimanche dernier.
Oui.
Qui es-tu, Lynn Sevone? Non, on l'espère avoir en plus ce soir, donc on va être gentil. À 11h, avec Sébastien Amier et Léna Marjac, évidemment, on va suivre cette épreuve à Val d'Isère. Et puis c'est déjà Noël, je vous rappelle, sur AMC, vous pouvez gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones, des PlayStation 5 ou des Switch 2 avec Micromania Zing et plein d'autres cadeaux à découvrir jusqu'au 24 décembre. Chaque jour, vous venez et vous venez ouvrir la case de notre calendrier de l'Avent qui est juste à côté de moi, qui est magnifique. Et c'est gagné. Pour jouer, envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Mais d'abord, donc, la punchline de la semaine.
RMC, la punchline GG.
Les GG, la punchline est signée Tadej Pogacar. Le Slovène va partir à l'assaut d'un cinquième tour cette saison, je vous rappelle, et tenter d'égaler le record de victoire de Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Miguel Indurain et Eddy Merckx. Cette semaine, il a dit ceci aux médias néerlandais Wiedel Fritz. Le Slovène de 27 ans pense qu'il serait possible de gagner les trois grands tours sur une seule saison. Il serait possible de gagner.
Comment s'appelle ce journal?
Les trois grands tours sur une seule saison. Il l'a confié à Wiedel Fritz.
Tu sais ce que ça veut dire?
Un média néerlandais. Mais tu le sais, toi?
Roue libre.
Roue libre?
Oui, ça veut dire roue libre. Wiedel, c'est une roue. Ouais. Fritz, libre, roue libre.
En fait, le problème, c'est que je te connais un peu, t'es capable de dire des choses avec beaucoup d'aplomb.
C'est vrai.
C'est incroyable. Mais bravo, les gars. C'est impressionnant. Donc, il est possible de gagner les trois grands tours sur une seule saison. Fred ne s'en remet pas. Donc, c'est Giro, Tour et Vuelta, ce dernier étant le seul qui n'a pas remporté. Je précise que...
Non, ça veut dire des sprints dans la roue.
Je précise que seule la grande boucle est à son programme cette saison. On va y arriver. Aucun coureur dans l'histoire n'a jamais réussi le triplé des trois grands tours. Donc, c'est course longue de trois semaines, hein, si vous ne le savez pas. Les GG, je vous pose la question. Croyez-vous à la possibilité de remporter les trois grands tours sur une saison? Très rapidement, oui ou non? Marc, tu l'as dit tout à l'heure?
J'ai envie de dire oui.
Jérôme?
Non.
Ouh.
Wiedel Fritz. Ça veut dire oui, en fait.
C'est pas possible, ce mec. Marion, il est mort de rire. En fait, Marion, tu ne vois pas, mais tout à l'heure, il est plié en deux, il attend pour balancer ses conneries.
Il est parti.
Marion, oui ou non, c'est possible?
Non, mais moi j'ai envie d'y croire.
T'as envie
moi,
d'y
je
croire.
Suis Marc, oui.
Bon, Marc, oui. Alors, tiens, on a les deux cyclistes là, ils ne sont pas d'accord. Marc, pourquoi tu dis oui, c'est possible? Alors, de gagner les trois grands tours.
Alors,
on rappelle que ce n'est pas l'objectif de Poggi, hein, je précise
non, c'est
quand
pas
même.
L'objectif,
il dit que c'est possible.
D'abord, s'il y en a un qui peut tenter le coup, c'est lui. Et deuxièmement, quand on regarde le cheminement de Pogacar, je pense que c'est le seul qui peut tenter le coup. Il n'y en a pas d'autre. Donc, si on était avec un autre coureur, j'aurais répondu non. Pourquoi on peut dire oui? Parce que quand on s'intéresse à ce que dit Pogacar, à travers ses interviews, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est quand il a dit Milan-San Remo ou Paris-Roubaix, pour moi, c'est aussi important que le Tour de France.
Que gagner un cinquième tour.
Que de gagner un cinquième ouais. tour.
Tu commences à bien l'aimer, ce coureur, Marco.
Ça veut dire, pour moi, ça, si on analyse un petit peu la situation, ça veut dire que c'est un coureur qui a besoin de se stimuler avec des choses qu'il n'a pas encore réalisées.
Oui, parce que même s'il dit je ne suis pas forcément accroché à l'histoire, il aime bien se stimuler avec des objectifs personnels.
Il a envie de gagner Roubaix et il a envie de gagner San Remo. Imaginons que les choses se passent bien et que dans les deux ans qui viennent, il réalise cet exploit de gagner les deux monuments qui lui manquent. Bon, on clôt ce dossier. On se met dans son esprit et on se projette. Dans deux ans, il aura 29 ans.
Exactement.
Dans deux ans, il aura 29 ans. Et forcément, à un moment ou à un autre, au réveil, il va se poser la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui?
Qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais de ma carrière?
Pourquoi je me lève?
Qu'est-ce que j'ai encore envie de faire? Est-ce que je vais à l'entraînement pour quelque chose? Et le truc ultime,
qui pourrait le stimuler totalement vers quelque chose de, d'irréalisable au premier plan, c'est l'enchaînement des trois grands tours et une victoire sur les grands tours. Les trois grands tours. Imaginons, il se présente, il dit voilà, je fais ma, c'est ma, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans, je suis au top, au sommet, j'ai tout gagné. Il me reste un truc que les autres n'ont pas réalisé. Même les plus grands, même le maître, même le goat de tous, Eddy Merckx ne l'a même pas tenté. Et se dire, je construis ma saison, voilà, c'est simple, objectif, le triplé. Et vous rentrez dans l'histoire pour de plusieurs siècles.
Ah oui.
Donc,
ça, c'est sûr.
Et ça, c'est le, pour, enfin, je le connais pas, Pogacar, mais je pense qu'il a besoin de sortir de l'ennui. Et on l'a vu à travers ses propos, notamment sur le dernier Tour de France, il y avait des jours où on avait l'impression qu'il s'ennuyait sur la course. Il s'ennuyait. Et là, d'aller sur ce triplé, bah c'est l'excitation absolue, absolue. Et moi, je pense qu'il y pense. Alors, je ne sais pas s'il y parviendra, mais le fait qu'il y pense,
c'est pas neutre qu'il
c'est
l'est.
C'est pas neutre.
Ouais. Il est convaincant, Marc, hein, Jérôme. Donc, t'es pas d'accord, toi, mais
il va être d'accord.
Ouais. Non, je suis pas d'accord avec les mêmes arguments. Sauf que j'y vois de la concurrence beaucoup plus élevée que Marc puisse le dire. C'est-à-dire que je suis pas certain qu'il arrive parce que Van Der Poel sera toujours là et que pour gagner Roubaix, il y a du monde en face.
Oui.
Que pour aller chercher des grands tours les uns après les autres, il faut quand même une préparation pour ça. Et que la concurrence va monter. Les concurrents de Pogacar d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes, je l'espère pour nous en plus français, que dans 2 ou 3 ans.
Ah, tu as du mal à croire à une domination sans partage.
Parce que
comme
pour
on
faire
l'a
les
connu,
trois, gagner les trois, Marco, on est d'accord qu'il faut gagner un Giro comme il l'a gagné il y a 2 ans à 70%.
On rappelle qu'il a fait le doublé Giro Tour, alors qu'on pensait que ce n'était plus possible dans le cyclisme moderne.
Hein, mais avec sur une année où il y avait personne en face. Et je pense que la concurrence est en train de monter en pression. C'est pour ça que moi je dis c'est pas possible.
Je suis pas si sûr que ça.
Parce que il faut aussi du temps de préparation. Il faut aussi aller en altitude de longs moments. Et je pense que...
Oui, mais 25... pour lui, c'est pas plus difficile de...
Mais à 25, 26 ans, il le fait. T'as vu dans ses déclarations, ce qui le saoule, c'est d'être loin de la maison. Il veut retrouver Urska le plus vite, le plus longtemps possible. Sa compagne. Être éloigné le moins longtemps possible de la maison à Monaco. Et aussi d'avoir une vraie vie d'homme et de famille. La prévision, quand même, a priori, c'est que... Ils ont aussi envie d'avoir des enfants et de créer une famille tous
tu
les
veux
deux.
Dire quoi, trop de sacrifices.
Ça demanderait de trop de sacrifices parce que c'est dans sa tronche.
Pas plus que
c'est dans sa tronche. Il va moins en altitude quand il prépare les classiques.
Ouais. Non, moi
que quand il prépare le temps de préparation dans l'enchaînement. Il aura
tellement
de préparation.
Le temps qu'il passe en Belgique à s'éclater sur les pavés, Roubaix, les Flandres, il sera obligé de partir sur le volcan déjà une première fois.
Le volcan Teide dans les Canaries ou les
redescendre pour le Giro, repartir avant le Tour et repartir entre le Tour et l'Espagne.
Je pense que techniquement c'est possible.
Techniquement c'est possible, mais est-ce qu'il en a la foi et l'envie, est-ce qu'il en aura encore la motivation lorsqu'il aura rempli, parce qu'il va se casser les dents sur San Remo, sur le Roubaix, mais aussi sur San Remo pendant un petit moment, je pense. Trouver la formule pour gagner San Remo.
San Remo, Van Der Poel était dans un jour de grâce.
Il est souvent dans un jour de grâce.
Oui, il est souvent dans un jour de grâce. Mais il peut y avoir aussi quand même un coup où il ne soit pas dans un jour de grâce.
Oui, il sera les passionnés de vélo ensemble.
Alors, vous savez que moi, je découvre le vélo grâce à Jérôme notamment et Christophe Cessieux aussi. Et en fait, j'ai découvert avec Pogacar.
Pas grâce
joueur,
à moi.
Mais toi, je ne le découvre pas. Toi, je le connaissais grâce à toi.
Merci.
Eux, ils me permettent de le redécouvrir.
En fait,
ce qui se passe, c'est que j'ai découvert un joueur. J'ai découvert quelqu'un qui avait besoin de challenge.
Mais non, justement,
qui aime le jeu, qui a envie de montrer des choses, qui est stimulé par les choses incroyables. Moi, je me rappelle quand on avait commencé en 2024 et qui commence par le Giro, tout le monde m'a dit, c'est pas possible, c'est pas normal qu'il domine autant. Vous allez voir, il va le payer au Tour de France. J'ai pas eu l'impression qu'il ait beaucoup payé en 2024. Je crois qu'il a marché sur tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte que dès qu'il y a un challenge, lui, c'est le truc.
Mais
c'est
Fred,
son truc. C'est sa façon de vivre. Il est né pour ça. Il a besoin du challenge. Il est motivé par le challenge. Et je vous écoute. Je sais, j'imagine à quel point ça peut être compliqué de le faire. Sauf que je rejoins Marc. Si une personne au monde est capable de faire ça, c'est lui.
Marion est d'accord aussi.
Parce que ça paraît logique. Mais effectivement, je pense qu'il va passer par les étapes. D'abord, les deux monuments qui lui manquent. Et ensuite, il va enchaîner sur ça.
Marc connaît trop bien Paris-Roubaix pour savoir que
ce ne sera pas aussi facile de cocher.
Non, ce ne sera pas facile. Mais à partir du moment où il l'aura coché, effectivement, il va se lever le matin. Pourquoi? En fait, s'il n'a pas cette simulation, il va se lever pourquoi? C'est ce genre de champions qui ont. Non, mais ils ont ça dans l'ADN, ils ont ça dans le sang. S'il n'y a pas de challenge, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de choses que personne n'a fait, Bah, ça m'intéresse.
Non, pas, mais Mario, en fait, je sais que t'es d'accord avec ça sur le côté impossible n'est pas Pogacar parce que tu l'adores. En fait, on a l'impression aussi qu'avec ces sportifs modernes là de cette génération, il faut encore.
J'adore. Il a quand même les résultats. Hein.
Non, mais il faut encore qu'on change le logiciel presque. C'est-à-dire qu'il y a des quand on le voit en NBA, Fred, dans son sport, peut-être dans le tennis, Marion là, on se disait après Federer et Nadal, il y a pas des mecs et Djokovic, il y a pas des mecs qui arriveront à enchaîner. Et finalement, Sinner et Alcaraz sont peut-être encore en train de repousser les limites d'âge et tout ça.
Bah, LeBron James, en fait, LeBron James, ça
La concurrence aussi, Georges.
Marion, toi sur Pogacar, ça t'étonnerait pas en fait?
Non, mais moi 2025, j'ai trouvé tellement monstrueux, à la fois sur les classiques, à la fois sur les courses à étapes, à la fois sur le fait que le Tour de France il enquille, avec derrière il est champion du monde, derrière il part aux Europes, il gagne les Europes, t'as l'impression que
quand t'as un mental comme ça, ça montre quelque chose.
Il est intouchable, voilà, exactement, qu'il est intouchable, et quand il a décidé d'accélérer à n'importe quel moment de la course, bah, il les plante tous. Alors après, bien évidemment, j'ai pas la connaissance aussi pointue que Jérôme dans l'analyse de comment il peut arriver à enchaîner entre chaque tour et les moments de préparation et le volume de préparation qu'il va devoir avoir. Mais là où je rejoins totalement Marc, c'est que ces champions-là ont besoin de défis au quotidien. Et qu'à un moment donné, s'il y a bien quelque chose qui peut l'exciter en se disant, bah, finalement, sur un an, je vais faire les efforts et puis je vais y aller, je vais tenter quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est ce qui a motivé Novak Djokovic dans le tennis. Il s'est dit, quand Roger Federer avait déjà plus d'une dizaine du Grand Chelem et que lui gagnait à peine son premier, il s'est dit, moi, vous savez quoi, je vais finir tout en haut. Et tout le monde lui a rigolé au nez en lui disant, mais tu te prends pour qui, t'as qu'un seul grand chelem, t'as Roger et Rafa qui marchent sur l'eau du tennis, tu vas jamais y arriver. Et en fait, ce genre de champions se nourrissent de ce qui est quasi impossible à faire.
De l'irrationnel.
C'est ça qui les excite. Mmh. Oui, de l'irrationnel, d'une chose qui normalement n'est pas faisable par n'importe quel humain. Et en fait, parce qu'ils sont surhumains, ils y arrivent. Alors, peut-être qu'il finira par pas y arriver, mais j'ai envie d'y croire parce que je me dis, et là où je rejoins totalement Marc, s'il y a bien un coureur qui va être capable de le faire, c'est bien lui. En revanche, effectivement, j'en vois pas d'autres. Ouais, mais lui, je pense qu'il peut y arriver. Il a fait quand même une seule fois la Vuelta, il a fini troisième en 2019.
Oui, enfin, c'était pas le Pogacar d'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, il est préparé. Je rappelle juste une précision importante. 34 jours entre la fin du Giro et le début du Tour de France. Il y a 48 jours entre la fin du Tour et le début de la Vuelta pour qu'on ait une idée un peu précise des moments de préparation. Le mot de la fin, Jérôme?
Non, mais je pense que avec la nouvelle génération qui arrive, et notamment, on parle beaucoup du français Paul Sexas, mais Florian Lipovitz, l'allemand, est très jeune.
On a Red Bull avec
Lorenzo Flynn, qui est aussi un jeune italien. On parle beaucoup, nous, de Paul Sexas, mais de l'autre côté de la frontière, côté transalpin, il y a aussi des très grands talents. Cette concurrence est jeune, très jeune concurrence. Va pousser un peu Tadej dans ses reconcentrations et retranchements pour travailler
est-ce
encore
que c'est pas
mieux.
Bénéfique. Et ben
justement,
ce
sera peut-être aussi ça. Si demain il trouve quelqu'un qui lui chatouille un peu la cheville, notamment Isaac Del Toro qui est dans son équipe, peut-être que ça va sûrement l'inciter aussi à regagner des grands tours, notamment un cinquième grand tour après avoir gagné Paris-Roubaix. A priori, c'est dans ce sens-là qu'il veut le faire. Mais ça peut être seulement ça, son essence pour se lever le matin, c'est dire ouais. Ok, maintenant il y a de la concurrence, donc je veux gagner et montrer que peu importe qui est là, je vais gagner quand même. Ça peut être déjà ça.
Toi, Jérôme, on t'a déjà chatouillé la cheville?
Ça peut arriver, mais c'était. Ça peut arriver.
Parce que c'est quand même bizarre, tu vois, les pieds.
Pas sur un vélo, pas sur un vélo. Le pompon dans les boules?
Le pompon au milieu des boules.
Il y a un pompon dans le jeu de boules. C'était pour. Voilà, il y a des gens qui nous écoutent.
Ça va être super, les fêtes avec.
C'est une expression doubayotte.
C'est vérifié. Allez, les grandes gueules du sport, dans quelques instants, on va retourner au Moyen-Orient il y a 3 ans, au Qatar. Les Français s'incliner en finale de la Coupe du Monde de foot face à l'Argentine. Est-ce que ce sont nos meilleurs ennemis désormais en football? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport où on apprend plein de choses, on a des expressions, on apprend le néerlandais également.
Ah oui, franchement, c'est culturel.
Ouais, comment on dit oui ou non en néerlandais?
Vide, sinon c'est frites.
Ah, c'est incroyable. Je crois qu'on n'apprend pas grand chose en fait, hein. On va vérifier. Si, Jérôme, j'ai confiance en toi sur le néerlandais. Ne t'inquiète pas, ne me regarde pas comme ça. Dans quelques instants, les amis, on va ouvrir la porte du vestiaire. On va parler de la difficulté à performer en France devant son public quand on est sportif français. Parce que que les biathlètes là, avant le week-end au Grand Bornand, certains ont dit quand on est devant nos fans, c'est difficile parfois. On est un peu rattrapé par la pression, c'est ce que disait notamment Lou Jean Monod, mais elle a réussi à vaincre ça en s'imposant notamment hier.
Un 20 au tir, hein, donc la pression elle a bien géré quand même.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. A priori
ça va. Surtout sur le pas de tir, si tu veux. Donc,
A priori, ça va mieux, mais on va l'écouter tout à l'heure. Elle disait au départ, elle n'avait pas de jambes.
Aujourd'hui, elle se dit qu'elle a la pression avec son dossard jaune.
Dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Mais tu sais quoi, tu veux les faire ces JO d'hiver? Dis-le vraiment, Jérôme. Dis-le vraiment.
Donc, enfin, un vrai spécialiste de la discipline.
Non, mais vous êtes tous des spécialistes dans tous les sens. Regardez, Marc Madio, par exemple, sait que Alcaraz va revenir avec Ferrero dans 6 mois quand il en aura marre. Donc, on sait tout. On est là sur tous les sports.
Et puis, Fred, c'est que moi, j'ai croisé Ferrero avant Alcaraz.
Moi, je parle néerlandais. Ouais. School of Unstru.
Ah ouais, parce que. C'est dans quel film, ça, déjà?
La Cité de la Peur.
Ah, c'est dans La Cité de la Peur, c'est vrai. Excellent. Bon, allez, les amis, redevenons sérieux. Et là, en plus, ça va être très sérieux, limite un peu traumatisant, même carrément. Les GG remontent le temps il y a 3 ans, 18 décembre 2022.
Pénalty pour l'Argentine. Messi face à Lloris. Messi 1-0 pour l'Argentine. Di Maria qui sert. L'espoir est au bout du crampon, l'espoir de faire douter l'Argentine, Kylian Mbappé face à Martinez.
Voilà
80e minute, l'équipe de France va peut-être ressusciter avec Kylian Mbappé qui remise.
Allez, Thuram,
Kylian
Allez, Kylian.
Mbappé
Allez,
Kylian. Ouais. Messi, attention, jeu, Lautaro, l'arrêt de Messi, non, la frappe a été arrêtée, il n'y a pas but.
Il n'y a pas en jeu, le but va être validé. 3-2 pour l'Argentine.
Non, pénalty, Mbappé qui s'élance. Si ça va au fond, c'est pour l'Argentine, face à Lloris. Vas-y Hugo, avec la course de Montiel, à contre-pied c'est fini, l'Argentine est championne du monde.
L'Argentine est championne du monde, ça donne des frissons.
Aussi hein. Mal, hein.
Franchement, ouais, de se replonger dans cette soirée de l'Uzeil au Qatar. La finale de la Coupe du Monde, l'Argentine mène 2-0. Rappelez-vous, la France revient à 2-2, on l'a entendu, les prolongations. Grâce à Mbappé, l'Albi Céleste repasse devant avec Messi, mais les Bleus égalisent à nouveau grâce à Mbappé. En plus, les stars étaient là au rendez-vous pour le plus grand match du monde. La séance de tirs au but sera remportée par un homme, hein, j'ai envie de dire. Le gardien argentin Emiliano Martinez, entré dans la tête des tireurs français. Derrière les provocations des joueurs et les débordements et de certains fans argentins contre la France, plus que les débordements, ont considérablement pourri la relation entre les deux sélections. Les Argentins sont-ils devenus nos pires ennemis dans le foot? C'est la question qu'on se pose ce matin. Fred?
Non, c'est nos meilleurs ennemis.
Ah oui?
Moi, je suis ravi. Je suis absolument ravi d'avoir une vraie concurrence, d'avoir des gens qu'on déteste, parce que justement c'est cette capacité à chambrer, cette capacité à jouer tout le temps, à être dur, à être solide. En fait, c'est pas un match normal, c'est pas un match lambda quand on va affronter l'Argentine, parce que on connaît ce peuple, on connaît cette énergie qu'ils déploient, leur amour du foot.
Mais le truc c'est qu'on n'avait pas un immense passif avec eux avant. On avait 2018 quand on avait gagné à la Coupe du Monde.
Sauf que là d'un seul coup.
Zéro passif.
Oui, sauf que le passif va être créé rapidement, surtout sur une finale, sur un match comme ça. Ils se sont pas gênés quand même pour nous chambrer.
L'après-match,
ça compte aussi.
Ah, bien sûr.
L'après-match, ça compte aussi. Et donc, ça nous a permis de les détester un petit peu, même si quelque part on les aime bien, parce que on aime bien se faire chambier, taquiner, bon, et on aime bien avoir un ennemi. Moi, j'aime beaucoup les Argentins, tu sais.
Ouais, moi aussi,
j'adore beaucoup l'Argentine, mais toi, un peu moins que toi quand même. Mais j'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est magnifique d'avoir cette concurrence, cette équipe en face de nous qu'on déteste un petit peu, mais en même temps, on sait quand même que ça peut être une très belle équipe, ça peut faire des beaux matchs, ça peut nous motiver. C'est un match différent si on les affronte. Moi, j'adore, je suis fan, c'est nos meilleurs ennemis, pas nos pires.
Jérôme, en préparant l'émission, tu m'as dit, j'ai qu'une envie, c'est qu'on les retrouve à la Coupe du Monde.
C'est clair.
Mais donc, c'est une motivation, donc c'est nos meilleurs ennemis.
Et le plus haut possible.
Évidemment.
Et le plus haut possible. Je rêve d'une revanche, d'une finale France-Argentine de nouveau, parce que celle-là, elle reste en travers. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, une époque pas si lointaine, même si voilà, c'est les tout jeunes ne s'en rappellent pas, l'ennemi numéro un de la France dans le football était l'Allemagne. Aujourd'hui, nos Allemands, ce sont les Argentins. C'est une nation que l'on aime à rencontrer et à battre, mais presque plus qu'à battre.
Mais c'est une question de génération aussi, je sais pas,
et
Marc.
Non, aussi,
moi, je suis pas du tout là-dessus.
Non, mais Marc, toi, non pour toi, ça reste les Allemands, par exemple?
Je pense que ce qui s'est passé avec l'Argentine était très ponctuel. Parce qu'il y avait Messi, parce qu'il y avait Pogba de l'autre côté, parce qu'il y a le déroulé de ce match. Mais je pense que sur le temps, sur la durée, l'ennemi intime, c'est et ça restera l'Allemagne, parce que pendant des dizaines d'années, on a été souvent outragé par l'Allemagne en football. On disait toujours à la fin, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne.
Bah, c'est 82, évidemment, voilà, à la Coupe du Monde.
Et je pense que.
Mais c'est une question de génération aussi.
Oui, sans doute.
Toi, parce que, non, parce que l'Allemagne t'a traumatisé.
Moi, non, mais je pense que la finale contre l'Argentine est un moment. Mais je pense pas que ça va s'installer dans la durée.
Voilà. Mais Marc, ce qui s'est passé après, ça t'a pas marqué un petit peu en tant que Français?
Donc
si ça te marque.
Mais toi, personnellement, moi j'ai déjà zappé l'Argentine.
Mais moi je l'ai pas zappé.
J'ai
zappé parce qu'on avait gagné la Coupe du Monde d'avant. Et je dis, pour moi, c'était.
Oui.
C'était un temps de passage, voilà.
Oui, c'est pas comme si on a perdu cette finale après être sorti de 15 ans de disette.
Voilà. Match fabuleux. Pourquoi? Parce que hier, il nous le disait, la fédé de la Loue, c'est ça nous donne l'espoir. On aurait, comme il dit, on aurait pu prendre 2-3-0.
Ah bah 2-0, ça aurait pas été un traumatisme.
Mais là, on a espéré, et l'espoir qu'a fait naître l'égalisation d'Mbappé, ça fait derrière.
Ah non, la physionomie du match,
derrière, tu crois, et je crois que les coups et les provocations d'Emiliano Martinez, principalement, te font encore plus mal.
Les gars, ça fait un match de légende.
T'as envie de gifler, quoi.
T'as envie de rejouer contre eux, t'as envie de les battre, t'as envie de les humilier.
Moi, j'étais en Argentine, je peux vous le dire, pour cette finale de la Coupe du Monde. Avec les Argentins.
Et t'étais pour qui?
Bah, moi, j'étais partagé, je vais pas vous le cacher. Hein, voilà, quand on est sur place, quand on habite dans un pays, quand on se marie en plus avec cette culture, évidemment on est touché parce qu'ils attendaient ça depuis 86, depuis Maradona venait de mourir, Messi avait repris le flambeau, on avait l'impression que c'était la dernière chance, il y avait toute une histoire, il y a ce côté les Argentins, mais qu'est-ce qu'il y a en fait, il va falloir toujours qu'on souffre, même quand on pense que l'on va gagner, on est rattrapé dans le match, il faut toujours que ce soit difficile et que peut-être ça va nous échapper, c'est un peu l'histoire aussi de ce pays.
Ça les mène, ça.
Voilà, il est un peu cyclique aussi dans sa vie sociétale et économique. Donc il y a un côté un peu comme ça de cette finale. Finalement, elle est tellement nous aussi. Mais les Argentins après le match, ils disaient on est ravis parce qu'on a gagné la plus grande finale de tous les temps. Il y avait ce côté-là. On a joué la plus grande finale de tous les temps et on l'a gagné. Et il y avait, je peux vous dire, parce que évidemment, on généralise beaucoup parce que c'est ce qui fait beaucoup de bruit. Mais il y avait beaucoup d'Argentins aussi. Il y a eu des débordements, plus que des débordements parce qu'on parlait de racisme, parce qu'il y a eu des chants racistes. Par exemple, contre Mbappé.
Et la célébration du gardien pour
et la célébration de son premier gardien. Mais il y a eu aussi beaucoup de respect pour la France. Mais c'est vrai que Marion, toi, tu marches beaucoup à l'affect aussi, parce que c'est ton tempérament aussi. C'est le sentiment de revanche, c'est un truc que tu gardes en toi aussi.
Ah non, mais là, j'ai envie qu'on les joue et qu'on les tape, mais t'as même pas idée. J'attends que ça. Non, mais en fait, il y a plusieurs éléments. Pour en revenir à ce qu'a décrit Marc, effectivement, avec l'Allemagne, moi qui ai grandi plus avec la finale à la fois de 98, et celle de 2006 avec Zizou en finale, avec ce qui se passe avec l'Italie, avec les provocations, etc. Moi, cette finale-là, j'ai eu la chance d'être dans le stade en 2022. Ça m'a rappelé les provocations, l'Italie, les provocations. Et même si là, les joueurs n'ont pas débordé, qu'il n'y a pas eu de débordement, ce que j'ai trouvé, en fait, qui a gâché cette fête-là, à la fois, je comprends totalement l'enthousiasme du peuple argentin et que tu l'as décrit. Ils n'avaient plus gagné depuis Maradona.
Et puis, c'est un truc, Marion, très argentin. Quand tu gagnes, tu as gagné le droit de provoquer.
Non, mais pas comme ça.
Oui, on aime.
Pas comme ça. Et en fait, le problème, c'est que la genèse de tout ça, parce que, en fait, 2018, bon, la France bat l'Argentine, la reprise de volée de Pavard, ça fait 4-3, mais bon, voilà, il n'y a pas d'incident.
Ça part de là, Marion. N'oublions pas les 10 dernières minutes du match, de ce match-là. Les 10 dernières minutes de ce match-là, l'Argentine, s'ils avaient pu découper les attaquants français, ils l'auraient fait.
De quoi ?
C'est
18, mais
ça a été très, très dur,
Marion.
Ça part surtout des déclarations de Kylian, qui avait dit avant la Coupe du Monde 2022 que le foot, en fait,
tout à fait,
les nations sud-américaines avaient moins de chances de remporter les Coupes du Monde parce que finalement le football européen était beaucoup plus fort.
C'est très juste ce que tu dis.
On voyait bien sur les dernières années des Coupes du Monde, et ben finalement c'est toujours des nations européennes qui le gagnaient. Et en fait, Martinez avait répondu en disant bah lui il a qu'à venir jouer en Bolivie à 3000 d'altitude, il verra bien ce que ça fait contre le Chili, etc., etc. Et il y avait un contexte autour de Kylian Mbappé qui était énorme et qu'en plus comme c'est lui qui remet totalement la France dans la partie et qu'à la fin il perd et qu'il y a cette image avec le président de la République Paris qui vient le consoler, etc. Bah, ils en ont fait des caisses et des caisses autour d'Mbappé. Et ça, franchement, ça m'a saoulé. Donc, j'attends qu'une seule chose. Ouais. Nos amis argentins, c'est qu'on vous rejoue. Et on verra bien. Voilà.
bon, bah, écoutez, on va voir si on va avoir le revival France-Argentine à la Coupe du Monde. Là, ce serait incroyable. Bah, en plus, Messi est toujours là. On pensait que c'était un adversaire de la Coupe du Monde. En fait,
ouais, mais il sera là dans quel état?
Ah, il sera là dans pas le même état, peut-être.
Attends, effectivement. Bah, oui, mais bon, en MLS, il se débrouille pas trop mal.
N'enterrons jamais les champions.
Certes, Marc, quand même.
Marc, on sait jamais. Donc, peut-être que si tu prends le départ de Paris-Roubaix, peut-être tu peux encore le gagner.
Non.
À l'expérience, au fleuve. Non. Oh, j'ai pas envie d'être un romantique, moi. Bon, allez, on revient dans quelques instants, les amis. On va ouvrir la porte du vestiaire. Les GG sur le besoin. On va parler de la CAN, tiens, également. Et puis, on va jouer tout à l'heure. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.